Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode spécial du Rendez-vous Jeu. Je suis Patrick Béja et généralement, d'habitude, le Rendez-vous Jeu, c'est une émission où on vous résume toute l'actu toute l'actu du jeu vidéo, que ça soit console, PC, même mobile, etc., etc. Et on fait ça toutes les deux semaines et on vous résume toute l'actu dans un petit condensé sympathique à écouter. Mais aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier et même très particulier puisqu'on ne va parler que d'un jeu, c'est un épisode spécial, comme je pense que je vais en faire de temps en temps. J'ai envie, quand un jeu me passionne, de passer un petit peu plus de temps spécifiquement à en parler. Et j'avais fait ça pour Overwatch il y a quelques semaines ou mois. On va faire ça donc aujourd'hui pour World of Warcraft Légion, qui a une place très particulière dans mon cœur. C'est les gens qui écoutent les émissions que je fais depuis longtemps savent que mon premier podcast était un podcast sur World of Warcraft. Ils savent aussi que j'ai travaillé pour Blizzard Entertainment pendant quelques années. Donc voilà, ça c'est aussi important à noter pour des questions éthiques. Donc j'ai une vraie passion pour ce jeu et j'ai été complètement hypé par la prochaine extension qui arrive donc le 30 août et je suis retombé complètement dans World of Warcraft et du coup j'avais envie d'en parler, de présenter un petit peu aux anciens joueurs, aux potentiels nouveaux joueurs, les nouveautés qui seraient disponibles dans cette nouvelle extension, dans Légion donc. Et voilà, moi je suis super excité. Et donc ça va être un épisode qui peut-être ne va pas plaire à tous les auditeurs, mais je pense qu'il plaira à ceux qui me suivent depuis longtemps et qui seront surtout intéressés de voir tout ce qui va changer et tout ce qui a déjà un petit peu changé avec Légion. Mais évidemment, je ne peux pas accomplir cette mission tout seul, donc j'ai demandé à deux vaillantes personnalités de la communauté de se joindre à moi. Et le premier, c'est mon ami depuis très longtemps, Julien de Judge Heap. Et pas Judge Hype, attention, qui se joint à nous depuis
Patrick.
La Belgique. Ça va ?
Très très bien, et toi, je te remercie de cette invitation.
Bah écoute, ça me fait très plaisir de te retrouver dans l'émission de temps en temps, hein. Quand on parle de jeux Blizzard, forcément, je pense à toi.
Bah écoute, plaisir partagé.
Ouais, je sais que t'es super occupé, tu fais bâtir une maison et tout, donc merci de prendre le temps de venir avec nous.
Pas de quoi. Quand on parle de Blizzard, je ne suis jamais loin.
Oui, c'est ça. Le site Judge Hype, hein, le réseau Judge Hype qui est très connu des fans de Blizzard dans la communauté francophone. Et donc pour moi et pour Julien, c'est le côté des vieux. Et puis on a aussi un jeune qui est là pour donner son opinion sur le jeu, qui est donc Bastien alias Tankor ou Thankor, je sais même pas comment ça se prononce. Ça va bien, Bastien?
Salut, c'est encore moi. Et oui, ça va très bien. Et je sais pas si jeune que ça, j'ai 25 ans.
Mais en fait, on en parlait avant l'émission et on disait, ouais, moi, Julien et moi, on a plus de 40 ans. Et toi, t'as 25 ans, mais surtout, bon, 25 ans, effectivement, c'est pas si jeune. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand World of Warcraft est sorti, tu disais 14 ans.
Et oui.
Et tu jouais sur le compte de ton papa, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais. C'est grâce à mon père, en fait, que j'ai commencé. Grâce ou à cause de mon père que je me suis lancé dans World of Warcraft. donc voilà. Et oui, ouais, effectivement, j'étais très jeune.
Oui, c'est ça. C'est marrant quand même, hein, que ce jeu qui a... Parce que Warcraft est passé par plein d'étapes différentes. Au début, c'était la folie complètement incroyable. Et puis après, il y a eu plein de gens qui ont dit « Ah, ça y est, Warcraft, c'est fini, c'est mort, machin. » Et maintenant, ça a l'air de s'être un petit peu stabilisé, quoi. Les gens viennent pour une extension et puis ils font 1, 2, 3, 4 mois. Certains restent plus longtemps et puis ils repartent et puis ils reviennent pour l'extension. C'est une sorte de rythme cyclique comme ça. Et j'ai l'impression que les gens sont plus calmes. Est-ce que tu vois ce rythme, toi, Julien?
En fait,
pardon, vas-y, Bast.
Tous les gens disent à chaque extension, WoW est mort, ça a trop changé, c'est plus comme avant, etc. Sauf que les gens ont compris qu'au bout d'un moment, on dit ça à chaque extension, et que arriver à, par exemple, à une extension comme Mists of Pandaria ou World of Draenor, on se dit BC était mieux, sauf qu'à une époque, on disait Vanilla était mieux, BC. Et pareil pour WTLK, et pas, donc au bout d'un moment, les gens comprennent que bon, le jeu évolue et c'est normal, quoi. Enfin, ouais. Heureusement qu'il évolue.
C'est vrai que... Vas-y, Julien.
Cette idée du « c'était mieux avant », elle remonte encore avant WoW. Moi, je me souviens avoir vu ça sur entre Diablo et Diablo 2. Et même avant et après la sortie d'un jeu, c'est toujours... Ah, mais ouais, la communauté qui a suivi le développement du jeu est très soudée et s'entend très bien. Puis le jeu sort... Et souvent, les joueurs qui ont suivi le développement disent « Ah oui, mais la communauté était mieux avant !» Et je crois que c'est un éternel recommencement avec tous les jeux, et ça existe même certainement depuis encore bien avant Diablo.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais toi, c'est vrai que tu suis ça de très près, Julien, avec ton site. Entre parenthèses, je ne l'ai pas dit, Moi, en fait, je t'ai découvert par ta sublime vidéo qui résume justement Légion avec toutes les fonctionnalités. Il faudrait que je la mette dans les lien de l'épisode d'ailleurs. Toi, t'es principalement YouTuber ou enfin tu fais des trucs sur YouTube ou tu fais d'autres choses aussi?
Alors moi, je suis YouTuber et streamer, ouais. Et je suis YouTuber pour le réseau BlizzArt en particulier. C'est un petit partenariat que j'ai avec eux. Donc mes vidéos, je les mets effectivement sur le site. Et puis ouais, je suis YouTuber et streamer aussi pour Millennium.
Très bien. Ah, mais je savais même pas.
J'ai rejoint les streamers de la Millennium TV WoW. Bon, je fais pas partie de la guilde Millennium, mais je suis streamer pour eux, ouais.
D'accord, très bien, très bien. Donc, bon, la vidéo sur Légion de Tankor, moi, j'ai trouvé que c'était l'un des meilleurs résumés que j'ai vu. Donc, si ça vous emmerde d'écouter une heure ou une heure et demie d'émission, vous pouvez aller regarder la vidéo de 20 minutes. En plus, vous aurez les images, ça sera encore mieux.
Bastien, j'ai une question pour toi.
Oui.
Ton père joue-t-il encore à WoW aujourd'hui?
Alors, il a arrêté à World of Draenor vers le début de l'extension, parce qu'il avait plus l'envie de jouer, en fait. Il a perdu l'intérêt de jeu. Mais il a joué, oui, pendant une dizaine d'années.
Ah oui, quand même. Ouais. Bah, ta vidéo ne lui a pas donné envie de revenir pour Légion?
Non, en tout cas, il n'en a pas parlé, mais peut-être qu'il reviendra. Hein,
pas encore.
À mon avis, ouais, il est sur Candy Crush en ce moment, donc tu vois, c'est...
Oh, mais quelle trahison! Mon Dieu! Il fallait pas le dire, tout allait bien jusqu'ici, mais...
Ouais, c'est quand j'ai passé les 50 ans après.
Hein. Ouais, bah oui, je comprends. Enfin, j'imagine. Enfin non, j'espère que non. À 50 ans, j'espère que je serai toujours en train de revenir pour les prochaines extensions. Mais c'est vrai que, avant de se lancer dans les détails de Légion auxquels on va arriver hein, très bientôt, il faut mentionner le fait que et sur Mists of Pandaria et sur Warlords of Draenor, les deux dernières extensions, donc pour ceux qui nous écoutent après une longue absence, il y a eu un délai entre le dernier contenu de l'extension et l'extension suivante qui était insoutenable, quoi. C'est vrai qu'on a eu des mois et des mois entre Mists of Pandaria et Warlords, et là entre Warlords et Légion encore plus longtemps. Bon, ça arrive, ça touche à sa fin, mais il y a eu 8, 9, 10 mois à chaque fois. C'était dû à la manière dont ils ont planifié les extensions. Tu disais, Bastien, que le jeu se renouvelle pas mal quand même. Ça reste World of Warcraft, mais il y a plein de nouveaux systèmes, de nouvelles fonctionnalités. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils développent un nouveau jeu, en fait, en quelque sorte, pour la nouvelle extension. Et ils espéraient à chaque fois pouvoir sortir la nouvelle extension au bout d'un an. Et ils ont annoncé récemment, Ion Hazzikostas, a annoncé récemment que, bah en fait, c'était pas la peine. Ils abandonnaient l'idée de développer une extension par an et qu'ils ont toujours voulu faire, mais jamais réussi. Et ça a posé ces problèmes parce qu'ils espéraient que la prochaine extension arrive au bout d'un an. Donc ils n'avaient pas prévu assez de contenu pour tenir toute cette durée. Et du coup là, ils se sont dit, bah ça y est, c'est terminé. On va faire une extension tous les combien de temps ça prend pour que l'extension soit prête, donc sans doute plus proche de 18 mois, 20 mois, et du coup ils vont prévoir, a priori c'est ce qu'ils ont dit, ils vont prévoir assez de contenu sur cette extension Légion avec trois gros patchs pour tenir jusqu'à la prochaine extension qui n'arrivera pas dans un an, ils le promettent même plus maintenant. Donc c'est un petit peu le raisonnement qu'il y a eu sur les deux dernières extensions, mais c'est vrai que l'attente était quand même insoutenable entre la fin de l'extension Warlords of Draenor et la sortie de Légion qui arrive dans un mois à peu près, quoi.
C'est vrai qu'ils avaient fait l'erreur à Mist of Pandaria d'avoir fait un patch 5.4 d'une longueur un petit peu trop abusive, c'est-à-dire qu'on a attendu ouais à peu près 14 mois pareil, hein. Et ils ont dit bon bah vous inquiétez pas, World of Draenor ça va être une extension qui va durer un an. C'est vraiment pour faire le lien entre deux extensions. Et donc, du coup, ils sont partis en mode, dans un an après, on aura Légion. Donc, du coup, ils ont fait que deux patchs majeurs, enfin, majeurs entre guillemets, hein, parce que le patch 6.1, c'était l'ajout de la fonctionnalité Twitter et un appareil à selfie dans le jeu.
Oui, c'était donc, pas un patch, c'était presque voilà. Rien, quoi.
Donc, deux patchs majeurs, dont un, on peut même pas le considérer comme un patch majeur. Et le patch 5.2, ou le patch 6.2, qui était un petit peu plus important avec l'ajout de Tanan.
Le 6.2, c'était un vrai. Il y avait la zone de Tanan, le nouveau raid, le shipyard, le je sais plus comment ça s'appelle en français. C'est toujours un problème que j'avais.
Le port, ouais.
Ouais. Mais c'est vrai que moi, pour avoir vu ça de l'intérieur, à l'époque où j'y étais, c'était vraiment, le plan était très bien conçu, quoi. C'est juste que, comme je le dis dans certaines de mes émissions, en fait, à un moment, tu peux être confronté à un problème. T'as prévu que ton extension sorte au bout d'un an. Sauf que elle est pas prête. Tu te rends compte que si tu la sors maintenant, bah elle est juste pas prête, elle est pas finie. Donc qu'est-ce que tu fais à ce moment? C'est vraiment une grande question qui se pose à tous les développeurs, à tous les éditeurs de jeux et à tout le monde, quoi. Moi l'analogie que je fais, c'est t'as prévu de faire un gâteau en une heure. Au bout d'une heure, tu te rends compte que ton gâteau il est pas prêt. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sors le gâteau du four quand même et tu le sers à tes invités et ça va pas être très bon? Ou est-ce que tu dis, je sais qu'ils sont en train de gueuler dans la salle à manger, qu'ils ont super faim et qu'ils attendent et qu'ils sont furieux parce qu'ils ont rien à bouffer, mais je sais que mon gâteau, il est pas prêt, donc j'attends encore et tant pis si, alors là, l'analogie se brise un peu, mais tant pis si les abonnés s'en vont. Il vaut mieux qu'ils attendent et qu'ils aient un bon gâteau au bout du compte et qu'ils reviennent et qu'ils soient contents plutôt que de leur sortir un truc maintenant. Il y a tellement d'éditeurs qui te sortent le truc et qui te font des franchises annuelles et des machins comme ça et au final on en est déçus. Moi je pense vraiment sincèrement que c'est une force de Blizzard de se dire when it's done, quoi. C'est l'un de leurs credos. C'est qu'on le sort pas tant qu'il est pas fait. Et même si on a fait une grosse erreur de timing et c'est vraiment notre responsabilité, c'est clair, c'est leur responsabilité, ils sortiront pas le truc avant qu'il soit prêt, donc c'est comme ça, quoi, il faut l'accepter.
Alors moi personnellement, si mon gâteau n'est pas prêt et qu'il va mettre longtemps à arriver, je leur sers au moins l'apéro en attendant, quoi.
Très bien, effectivement. t'as pas tort.
Excusez-moi. Ouais, ce qui est amusant avec Warlords of Draenor, c'est que le succès était colossal à la sortie. Mais que les gens vont s'en souvenir en disant « Ah ouais, non, WoW, c'était une extension, somme toute, assez moyenne. » Et c'est tout l'inverse avec Mist of Pandaria, où dès l'annonce, c'était « Bon, qu'est-ce que Blizzard nous a fait là avec les Pandaren ?» On ne comprend pas très bien. Mais aujourd'hui, quand on regarde Mist of Pandaria, on se dit « Ah, dis donc, qu'est-ce que c'était bien comme extension ?»
Alors ouais,
que pendant toute la durée de vie, voilà, c'est amusant de voir le rapport entre les deux extensions et la façon dont elles ont été accueillies par les joueurs.
Ouais, c'est sûr.
C'est vrai qu'il y avait les fiefs qui étaient un super gros succès au début, tout le monde a adoré, et puis très vite, au bout d'un ou deux mois, on s'est rendu compte à quel point c'était rébarbatif d'aller gérer tous tes trucs de fiefs. On aurait dit, tu parlais de Candy Crush, Bastien, on aurait dit un jeu de gestion plutôt genre Farmville ou un truc comme ça, un jeu de gestion où tu dois aller cliquer sur tous les trucs, et c'était effectivement très vite
insupportable.
Et attendre
plusieurs heures que ça se fasse.
Ouais.
À long terme, sur le long terme, en fait, ça a un petit peu, entre guillemets, cassé le jeu, parce que ça, comme je disais dans ma vidéo, justement, c'est que ça casse le commerce. Les gens n'ont plus besoin d'aller farmer pour faire leur métier, etc. Ils ont déjà tout cuit dans le bec. Mmh. Et puis les capitales se sont vidées, quoi. Ça, le truc, c'est que tu joues sur un MMORPG, mais tout le monde est dans son coin, et c'est un peu dommage, quoi. Mmh. C'est un peu dommage.
Bon, écoutez, on va pas trop non plus faire le bilan de Warlords of Draenor, même si on en a quand même un petit peu parlé. Lançons-nous, ça fait déjà un quart d'heure. Lançons-nous sur Légion et ce qui se passe avec Légion. On pourrait en parler encore plus en détail de Warlords of Draenor. Encore que, je me demande si on n'aura pas des souvenirs émus quand même de certaines parties de Warlords à un moment dans un ou deux ans, comme c'est le cas sur MOP, dont tu as raison, Julien. Il a été vraiment injustement jugé au début, et il y a beaucoup de gens qui en gardent un souvenir ému, dont moi, quoi. Il y a plein de trucs dont je me souviens qui étaient vraiment mémorables, quoi. Mais
ouais, et puis c'était complètement dépaysant.
Ouais, en plus,
le continent était incroyable.
À vrai dire, je me demande s'il serait pas temps pour la prochaine extension après Warlords et Légion de revenir à un truc un petit peu plus paisible, parce que là c'est vraiment les orques, la Légion, les démons, tout est noir et il y a des musiques tribales, c'est genre des percussions et des gens qui font dans toutes les
trucs. Tu le fais super bien,
n'est-ce pas? c'est mon entraînement 12 ans de World of Warcraft. mais bon, bref, donc en attendant, Légion qui va arriver le 30 août a quand même déjà donné un goût de Légion avec le pré-patch qui est déjà disponible depuis quelques jours, et on va donc parler d'abord des changements qu'amène ce pré-patch et ensuite des vrais changements de Légion qui arriveront le 30 août avec l'extension, le lancement de l'extension. Alors, le pré-patch, pour la plupart d'entre vous le sauront, c'est le patch qui amène tous les systèmes de l'extension, mais pas le contenu de l'extension lui-même. Donc, tous les changements de classe, tous les changements qui seront disponibles, en fait, depuis le premier niveau jusqu'au niveau maximum de l'extension actuelle. Donc, en l'occurrence, c'est tout ce qui est disponible niveau 1 à niveau 100, et ben c'est dans Légion et déjà dans World of Warcraft, et c'est maintenant World of Warcraft basique. Tout est comme ça. Alors, qu'est-ce qui change? Le plus important des changements, c'est les changements de classe et de spécialisation qui sont maintenant... il n'y a plus de double spécialisation. Il y a... on peut changer de spécialisation quand on veut, quand on est en ville, je schématise. Et ils ont retravaillé une bonne partie des classes et des spécialisations pour qu'elles soient un petit peu plus simples. On n'a pas 12 000 boutons qui servent à rien sur nos barres, ça je l'ai vraiment constaté depuis quelques jours. Et puis, il y a des classes qui sont vraiment retravaillées en profondeur avec l'idée qu'ils correspondent au fantasme de la classe et qu'ils soient plus différenciés dans les différentes spécialisations. Par exemple, l'une des classes qui a été retravaillée de cette manière, c'est le chasseur, dont la spécialisation survie est au contact maintenant. C'est une classe de contact, de mêlée. C'est un gros changement. Je ne sais pas si tu as des exemples ou des trucs à noter sur ces changements, Bastien. Tu as beaucoup passé de temps.
Alors, il y a le voleur qui a l'aspect combat, qui ne s'appelle plus l'aspect combat, mais l'aspect hors la loi, qui est une espèce de spé qui ressemble à une espèce de pirate, en fait, où on peut sortir un fusil pour stun un ennemi, etc. Il y a aussi l'aspect démonologie qui n'a plus sa forme de métamorphose. Donc il ne peut plus se transformer en démon, puisque c'est effectivement le Demon Hunter, on en parlait un petit peu plus tard, qui peut lui se transformer en démon. Donc ils ont enlevé ça à l'aspect démonologie. Par contre, son délire à l'aspect démono, c'est que maintenant ils peuvent invoquer des dizaines de démons pour venir les aider en combat. Donc c'est vraiment, comme tu disais, pour venir intensifier l'aspect classe, en fait, l'aspect propre de chaque spécialisation et de chaque classe.
Oui, tout à fait. J'ai discuté hier avec un joueur prêtre, prêtre sacré, qui me disait, écoute, jusqu'ici, je soignais bien, mais sans plus. Il dit, je me retrouve maintenant avec le meilleur soin du jeu. Il dit, mon fantasme est réalisé. Donc, comme tu disais, chaque classe a été quand même bien retravaillée, certaines plus que d'autres, comme d'habitude. Mais ça vaut la peine pour les joueurs d'aller jeter un œil à ce qui leur est arrivé avant Légion.
Ouais. Il y a beaucoup de gens, par contre, qui vont dire... je sais que je lis pas mal les forums et je vois pas mal de gens qui disent
ça.
Oui, mais
faut pas, Bastien,
oui,
tu sais.
Oui, je sais, mais j'essaie de voir un petit peu ce que disent les gens dans la vie générale, en fait.
Dans la vraie vie.
Il y a pas mal de gens, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que leur classe a été démolie, que le gameplay est devenu trop simple, on perd complètement l'intérêt de jeu. Sauf
c'était
que
c'était mieux avant.
Non, c'est en fait le but de Blizzard, c'est que ils veulent, oui, effectivement, simplifier un petit peu le gameplay, que ça parte pas dans tous les sens et que ce soit pas des gameplay, des rotations qui sont vraiment trop compliquées à apprendre et à optimiser. Mais par contre, ils veulent rendre les combats de boss plus techniques et plus compliqués, en fait. C'est-à-dire que les gens accèdent un petit peu plus facilement au mode mythique pour là vraiment pouvoir en chier, entre guillemets, quoi.
Ouais, donc
être moins concentré sur sa rotation et plus concentré sur le combat actuel, en fait.
Oui, et puis il y avait parfois une fausse impression de possibilité, puisqu'il y avait des aptitudes que tu utilisais tellement rarement. Alors elles étaient là, donc dans tes barres de raccourcis, mais comme tu les utilisais jamais, mais en gros, Blizzard part du principe où ça ne sert à rien de les avoir si on les utilise une fois toutes les lunes.
Et c'est déjà, c'était déjà le cas à plusieurs reprises, hein. Ils ont simplifié les rotations par le passé, ça c'est déjà arrivé. Et puis là, le truc qui est sympa, c'est qu'on a vraiment trois spécialisations vraiment différentes pour toutes les classes, quoi, qui se jouent différemment. C'est comme avoir vraiment trois persos pour chaque perso, en fait, en quelque sorte. Et puis il y a un autre truc, les talents sont différents maintenant par classe. Donc on a ce même système où on a une dizaine de lignes de talents avec trois choix à chaque fois. Donc au moment où ils ont revu les talents, où on n'a pas ces arbres hyper compliqués dont parfois le point de talent que tu mettais, c'était rajoute 1% de coup critique, bon, ok. Là, c'est vraiment des capacités différentes à chaque fois, mais elles sont par spécialisation. Donc c'est pas commun à toutes les tes spécialisations, ton arbre de talent, c'est vraiment un arbre de talent par spécialisation, ce qui augmente encore plus la différenciation entre toutes les spécialisations, du coup. Encore un autre exemple, peut-être. Non, vous savez quoi, il y en a plein. Passons à autre chose. Le PVP a énormément changé aussi. Alors pour le PVP, il y a une partie qui est déjà active et puis une partie qui sera active vraiment quand on atteindra le niveau 110. Mais d'une manière générale, quand on entre dans une arène, dans un setting, un endroit où c'est du PVP, notre équipement est complètement normalisé. Alors au niveau 110, ça sera normalisé avec un équipement de niveau 850, mais à la limite, peu importe le chiffre, ce qui est important, c'est que toutes les classes auront les mêmes statistiques. On aura, tous les voleurs auront la même quantité d'agilité, tous les mages auront la même quantité d'intellect, etc., etc.
Et dépendant du stuff, hein. C'est-à-dire que si on a un stuff un petit peu supérieur, eh bien on aura un petit bonus en termes de stats.
C'est pas
quelque chose d'énorme, c'est quand même assez équilibré.
C'est très c'est-à-dire que si on a le niveau de base de PVP en niveau de stuff, ça sera niveau 800. Si on a un niveau en dessous de 800, on est normalisé à 850 et tout le monde est à 850. Et ensuite, chaque point d'high level qu'on obtient au-dessus de 800 va nous donner juste un tout petit pourcentage de ce que nous donnerait effectivement ce niveau de stuff, de telle sorte que un personnage qui a 100 points de high level de plus n'aura que 10% de statistiques en plus. Donc ce que ça veut dire, c'est que ça met tout le monde sur un pied d'égalité en PVP. C'est un truc auquel ils ont énormément résisté pendant très longtemps. Il voulait vraiment que le stuff ait son importance en PvP. Et là, il s'approche beaucoup plus d'un jeu PvP très arcade où on peut comparer à, je sais pas, Call of Duty ou ce genre de truc, où vraiment tout le monde a le même personnage en quelque sorte, en fonction de la classe, en fonction des trucs comme ça. Et en plus de ça, on gagne des talents spécifiques de PvP. Donc on a une autre barre d'expérience qui va de 1 à 50 et tous les 2 ou 3 niveaux, on gagne un talent. Qui sont spécifiques au PvP, qu'on ne peut utiliser qu'en PvP, et quand on arrive niveau 50, si on le souhaite, si on est vraiment un fou du PvP, on peut repartir de zéro en gagnant un point de prestige, et ça, ça donne des récompenses type monture, etc., ce genre de choses. Et là, on repart du niveau 1 PvP, et on peut remonter niveau 50, et on peut, etc., le refaire autant qu'on veut. Donc ça rend le PVP beaucoup plus... Et en plus, il n'y a pas de stuff spécifique PVP, puisque le stuff n'a plus vraiment d'importance, n'a plus énormément d'importance en PVP. Donc ça rend le PVP... Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez du changement de ce changement, vous ?
Moi, je trouve que ça rend le PVP évidemment beaucoup plus attrayant aujourd'hui qu'il ne l'était jusqu'ici. C'est vrai qu'au moins maintenant, si moi j'ai envie d'aller me lancer dans le PVP, je sais que j'ai ma chance, enfin, que j'ai ma chance, entre guillemets. Au moins, je vais pas me dire ah non, je vais tomber contre des joueurs qui sont eux suréquipés et qui jouent depuis très longtemps. Ouais, et donc non, pas du tout. Alors oui, ils vont avoir un petit avantage, mais au moins, je sais que je peux faire quelque chose et avoir une utilité dans mon équipe. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui a dû leur prendre beaucoup de temps à équilibrer et qui est très très positif. Et en plus de ça, c'est vrai que ça. Le fait d'ajouter comme ça toutes des petits bonus, les mascottes, etc., je pense que ça va encourager encore plus les gens et les collectionneurs à se dire ah ben non, je vais quand même jeter un petit coup d'œil au PVP parce que maintenant, bah, j'ai ma chance, moi aussi. Donc je pense que ce n'est que positif.
Ouais, moi j'aime beaucoup aussi parce que en fait ce qui m'empêchait de faire du PVP quelque part, c'est que moi j'aime pas faire quelque chose pour rien en fait, j'aime bien avoir ma petite récompense au bout. Et sur la World of Draenor et toutes les autres extensions, effectivement, une fois qu'on avait fait assez de BG, assez d'arènes, on avait notre stuff, mais on était full stuff, et après on n'avait plus rien à farmer, mis à part une cote en fait. Et la cote, bon, moi ça me gonfle assez vite en fait. Alors que là, on va vraiment partir sur quelque chose qui, on peut continuer d'enchaîner des BG et continuer de gagner des grades, et sachant que à toutes les saisons, on va encore gagner 4 niveaux de prestige à chaque saison. Donc là, on en a 4 de base, après on en aura 4 autres, etc. Donc on va vraiment avoir des récompenses sympas et vraiment la bonne carotte qui va nous permettre de continuer de s'amuser en BG tout en ayant la récompense au bout, quoi. Et ça, c'est bon.
Ouais, c'est toujours, de toute façon, le principe de World of Warcraft, c'est toujours le hamster dans sa cage qui court après la récompense, et puis au bout d'un moment, tu finis par l'avoir, et c'est toujours des raisons d'appuyer sur les boutons, quoi. C'est ça. Tout à fait. Ouais, on est tous les trois positifs sur ce changement. Je pense que d'une manière générale, vous l'aurez compris. Bon, d'une part, on est des fans du jeu et de Blizzard, hein, ça c'est clair. Mais sur cette extension spécifiquement, j'ai l'impression qu'il y a pas vraiment de trucs négatifs, quoi. Bon, après, on sait jamais, hein, parce qu'on l'avait vu avec, on l'a vu avec les fiefs. Au début, c'était génial, et puis on s'est rendu compte au bout de quelques mois que c'était insupportable. Donc, il faudra voir.
On n'a pas encore assez de recul, en fait, c'est ça, sur l'extension, pour dire s'il y a tel ou tel point qui sont négatifs.
Ouais. Mais vu d'ici, en tout cas, ça a l'air positif, quoi.
Ça a l'air plutôt sexy, ouais.
un autre changement qui est déjà implémenté, c'est la garde-robe. En gros, c'est toute la transmogrification, tous les objets, les apparences des objets, ils sont stockés maintenant individuellement sans avoir besoin de garder ces objets dans votre banque ou dans vos sacs. Et vous pouvez changer l'apparence de vos objets facilement pour vous faire des sortes de tenues spécifiques en fonction de votre classe, de votre spécialisation. Par exemple, vous pouvez faire accumuler, c'est encore un truc à collectionner, vous pouvez accumuler les apparences. Et d'ailleurs, je me suis fait pas mal d'argent avec ça à l'hôtel des ventes depuis quelques jours. Et donc ça c'est, ouais, bah oui. Pardon. Complètement. ça faisait tellement longtemps que j'avais pas joué à l'hôtel des ventes que mes finances commençaient à s'assécher un petit peu, donc il fallait que je les remonte un peu.
Ah, puis il faut faire des réserves pour Légion surtout.
Exactement, ouais. Bon, je vais passer peut-être un petit peu plus vite sur tout ça. Il y a plein de choses, mais on peut pas tout traiter. Il y a les glyphes ont disparu complètement. On peut en acheter maintenant des glyphes mineurs, mais les glyphes majeurs ont disparu. Les animations des combats de mêlée ont été refaits et ils sont super dynamiques. J'ai hâte que les animations des sorts soient refaits aussi, parce que moi je suis un petit peu jaloux. Je suis plutôt lanceur de sorts. Il y a des changements d'interface. Vous avez le cercle sous le mob qui indique la direction dans laquelle il regarde. Vous avez des améliorations aux professions avec enfin la fenêtre de profession qui est un petit peu plus grande. Les professions d'ailleurs ont changé avec des on peut voir où sont les recettes qu'on n'a pas encore. Les recettes peuvent tout le monde peut les faire, mais on peut les améliorer si on a un meilleur niveau dans ces recettes. Il y a les class trials, je sais plus comment ça s'appelle en français. On peut en fait essayer une classe avant. On pourra en tout cas au moment de la sortie de Légion. Je crois que c'est pas encore activé parce que ça, dans l'essai, on peut aller un petit peu dans la campagne de Légion. Mais donc on peut essayer une classe avant de la choisir.
De la sésamer.
Ouais, de la sésamer. Et ça nous permet de voir, même si on veut pas utiliser un sésame qui nous amène niveau 100. On peut l'essayer et puis ensuite décider, ah ouais, cette classe est sympa, je vais lancer un personnage niveau 1 avec cette classe. Donc ça, c'est, je comprends, en fait ils auraient dû l'avoir depuis longtemps, quoi. C'est hyper sympa. Il y a un tutoriel qui vous explique la rotation, etc.
C'est très court le tutoriel. C'est vrai que c'est une zone, enfin t'es sur un vaisseau et ça dure vraiment pas longtemps, mais enfin ça permet effectivement de base.
Ouais, voilà. Mais il t'explique la rotation, quoi. Il dit, alors la classe, ouais, elle se joue comme ça, tu appuies sur ce bouton pour faire ça, et puis après ça te donne tel buff, donc quand tu l'as, tu vas pouvoir faire ça, et ça, c'est 10 minutes. Mais ça suffit pour comprendre le fonctionnement de la classe, et t'as pas besoin de la commencer niveau 1 et de l'amener niveau 50 avant de te rendre compte qu'en fait ça te plaît pas, tu vois. C'est... Moi, je trouve ça super.
Ouais, mais... puis ils te permettent, ils te permettent d'aller explorer ton domaine de classe, ils te permettent de faire le rivage brisé, ils te permettent d'aller chercher ton arme artefact pour voir si elle te plaît, etc. Donc, ouais, ils te permettent de faire pas mal de choses avant de te décider si oui ou non cette classe te plaît, quoi.
D'autres choses qui vous ont marqué dans les petits trucs, pas énormes.
Alors oui, il y a l'ajout d'une nouvelle caméra. Qui est utilisable uniquement dans la... Voilà, c'est ça. Tu es obligé de rentrer une commande dans la console. Alors c'est quelque chose que Blizzard ne veut pas que les gens fassent, en fait, utiliser la console. Donc peut-être que c'est quelque chose qu'ils vont mettre de manière normale dans les options, peut-être.
Ce qu'ils ont dit, c'est que c'était un truc qu'ils ont testé, sur lequel ils travaillent. Ils sont en train de travailler, ils l'ont testé, ils savent pas si ça va rester ou pas. Et ils l'avaient dans la bêta et les gens ont adoré, donc ils l'ont laissé comme ça sous forme d'option dans la console. Mais c'est pas un truc, enfin, ils l'ont laissé parce que ça plaisait. Mais pour le moment, c'est pas une fonctionnalité terminée.
Ils savent pas ce qu'ils vont en faire.
Ouais. Et c'est vrai que c'est sympa, quoi. Ça décale la caméra par rapport au personnage, donc ça nous met dans un mode type jeu d'action, genre Gears of War,
The Witcher,
voilà, ouais. Et du coup, on peut rapprocher la caméra, donc c'est une vue beaucoup plus dynamique. Et en particulier avec les classes de mêlée qui viennent au contact, ça rend, et avec les nouvelles animations, ça transforme un peu la vision du jeu, quoi.
Oui, carrément. C'est beaucoup plus immersif, en fait. T'as vraiment, en plus, quand tu marches, la caméra bouge de haut en bas comme si c'était, tu courais vraiment, en fait.
Ouais. Moi j'ai trouvé ça très rapidement, j'ai trouvé ça un peu gerbeux, parce que quand tu sélectionnes un autre personnage, la caméra bouge, enfin,
oui,
c'est
faut
un
s'y
peu
faire, vraiment.
Ouais, faut s'y faire, on va dire. Mais ouais,
ça va être très beau pour les screenshots et pour faire des vidéos.
Ouais,
mais c'est vrai qu'à l'utilisation jour le jour, je sais pas si les joueurs vont switcher sur cette vue là.
Autre chose, ou on passe au... oui, vas-y.
Oui. Le fait que la distance maximale d'affichage, enfin la distance d'affichage, ait été augmentée. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est fabuleux. Dois dire que ça a été une des choses qui m'a le plus marqué dans Légion. Et là, le fait que le patch déploie cette fonctionnalité-là, pour moi, c'est fantastique. Alors, c'est vrai que ça
demande... On peut voir beaucoup plus loin, quoi. On voit les montagnes.
Voilà, exactement. Ça a été plus que doublé. Et c'est très, très impressionnant. C'est vraiment très, très impressionnant. Je veux dire, c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est connectez-vous à WoW et repassez voir les anciennes zones et allez vous balader. Les trajets aériens n'ont plus la même saveur. C'est vraiment impressionnant. Et ça, je dois dire que c'est un des points qui m'a le plus impressionné dans le patch note finalement.
C'est vrai que ouais, c'est toujours moi un truc qui me plaît. Ils augmentent régulièrement la distance de vue, mais là ils l'ont, comme vous le disiez, énormément augmenté. Et c'est vrai que du coup ça change, parce que l'un des trucs, même si World of Warcraft est devenu un jeu hyper arcade, hyper simple, hyper popcorn, mine de rien, il y a quand même des moments d'immersion significatifs. Et le fait de s'envoler et de voir le monde quand même, alors on voit quand même, il y a un bout, hein, on voit pas l'ensemble du monde, mais quand même voir les montagnes au loin, voir les trucs, c'est vrai que ça change pas mal pour moi aussi. Je suis assez d'accord.
Oui, le fait d'être au milieu d'une zone et de déjà voir la zone suivante, c'est bluffant visuellement. Quand on se balade depuis 10 ans dans ces zones-là et qu'on a l'habitude en fait de voir hop les montagnes, et on ne voit pas plus loin. Le fait d'aller voir les screenshots que j'avais pris à l'époque, j'étais à Silithus et je voyais une partie du cratère Ngoro. C'est génial parce que ça rappelle même d'autres souvenirs. On se dit, ah, la zone là-bas, qu'est-ce que j'ai passé de bon temps. Et alors qu'on n'y passe pas spécialement sur le trajet, ouais. Mais ça fait passer le temps et c'est vraiment très réussi.
Ouais, c'est vrai.
On voit même depuis Orlevent la tour des Hautes Terres du Crépuscule, là. Le raid. C'est quand même ouf. On voit l'ombre, mais on la voit.
Ouais, c'est vrai. Alors, l'événement de lancement de Légion, on va peut-être pas trop passer de temps dessus, mais il y aura évidemment un événement de lancement qui va commencer dans pas trop longtemps. Il y aura des invasions de démons qui vont commencer. Il y a déjà des Doomsayers, je sais plus comment ça s'appelle en français, des personnages qui annoncent le Doom.
Les annonciateurs de la fin du monde. Ouais,
voilà. Qui viennent te distribuer c'est marrant, ils ont des pamphlets qui te donnent dans toutes les villes qui te disent, ah, le monde touche à sa fin, la Légion arrive, de toute façon, il y a rien qu'on peut faire, on peut juste mourir, donc, au revoir. Ou alors, préparez-vous avec le super bunker gonflable de machin, vous résisterez à toutes les invasions, ou genre le costume de démon qui vous permettra de passer inaperçu quand les démons auront envahi tout Azeroth. Bref, c'est des trucs marrants. Et puis, il y aura effectivement des invasions qui seront des scénarios avec 4 stages qui vont devenir de plus en plus... qui vont être débloqués de plus en plus entre maintenant et l'arrivée de Légion le 30 août. Il y a quoi d'autre ? Il y a même... alors, ça, je suis pas sûr d'avoir bien compris. On pourra faire le début de la quête des îles brisées avant le lancement de Légion, c'est ça ? On va aller sur les îles brisées avant le lancement de Légion ?
Alors, en fait, ça va arriver normalement dans 2 semaines. C'est-à-dire que là, au moment où on parle, le patch 7.0 vient de sortir. Et en fait, ça va être... débloqué en 3 phases. Donc on a la première phase avec les changements de classe, la transmogrification, etc. 2 semaines plus tard, normalement la sortie du rivage brisé, effectivement. Donc on va vers le rivage brisé, on attaque le rivage brisé. Et on a juste derrière ça l'invasion d'Azeroth par les démons, hein, comme tu disais, où on a quelque chose à faire justement avant l'arrivée de Légion, c'est-à-dire aller faire l'espèce de scénario en 4 phases qu'on pourra répéter autant de fois qu'on veut, parce que ça va arriver un petit peu tout le temps, et on pourra avoir des récompenses, genre du stuff e-level 700, quelques petites transmogrifications, des petits jouets par-ci par-là. Et ensuite, on aura la sortie du Demon Hunter qui va arriver pour les gens qui ont précommandé le jeu uniquement au moins 2 semaines avant. Voilà, au moins 2 semaines avant la sortie de Légion, c'est-à-dire le 17 août au plus tard.
Voilà, qui ont préacheté uniquement via Battle.net ou la boîte de préachat. Les gens qui ont précommandé la version standard ou le collector ne doivent pas s'attendre à recevoir une clé à entrer dans leur dans leur compte Battle.net, eux, ils n'auront pas accès aux chasseurs de démons.
Ce qui pose d'ailleurs problème, parce que si vous voulez le chasseur de démons, il faut le préacheter, mais l'édition collector, elle ne sortira que le 30 août, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous voulez le chasseur de démons et la version collector ? C'est, il faut le pré-acheter et puis racheter la version collector, mais bon, c'est un peu compliqué. J'ai entendu, je crois que c'était dans un podcast, un autre podcast francophone, c'était, comment il s'appelle, Ghost Titan Adventure, oui, je crois que c'est là-dedans qu'il disait que peut-être le customer support peut vous donner une clé, en fait, vous donner une autre clé si vous avez finalement deux clés avec la version numérique et la version collector, mais il faut contacter le customer support et puis vous donner la clé à un pote par exemple, mais ouais, c'est quand même un... et c'est pas confirmé, je suis pas sûr du tout de que c'est le cas, mais donc c'est un petit souci, mais bref.
Ouais, c'est quelque chose qui est faisable mais qui fonctionne pas à chaque fois. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça dans le passé, c'est que pour profiter du jeu le jour de la sortie par exemple, ils l'achetaient sur Battle.net, et puis le lendemain quand ils recevaient leur collector par la poste, ils demandaient à l'assistance clientèle d'être remboursé pour pouvoir valider leur collector après. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui passe à chaque fois, et faut se méfier, c'est vraiment pas une solution ouais, qui est assurée à 100%.
À la limite, on peut acheter la version digital collector machin, et puis donner la clé de la collector à un ami. C'est possible aussi, mais bon, bref, il n'empêche que le 17 août au plus tard, on aura les chasseurs de démons, donc ça fait vraiment partie du pré-patch, cette nouvelle classe, et c'est une nouvelle classe héroïque. Alors, ce que ça veut dire épique, je sais plus quel est le nom en français.
Héroïque,
je crois que c'est héroïque, d'accord. Et si vous vous souvenez, la première classe héroïque, c'était les chevaliers de la mort, où vraiment l'idée, c'était que le fantasme des chevaliers de la mort, en fait, c'était de jouer Arthas. Voilà, on jouait Arthas et on avait toute cette esthétique, tous ces fantasmes du chevalier de la mort Arthas. Là, les chasseurs de démons, en fait, c'est qu'on va jouer Illidan. On joue un chasseur de démons, un elfe de la nuit ou un elfe de sang qui a décidé de s'approcher de la Légion et de prendre les pouvoirs des démons pour mieux les combattre. Et il y a, on peut avoir les cornes de démons, le bandeau sur les yeux, etc., etc. Et donc, c'est vraiment les chasseurs de démons, c'est jouer Illidan, quoi. Alors, il y a deux spécialisations seulement, une spécialisation DPS et une spécialisation tank. Et les chasseurs de démons, peut-être le truc le plus spécifique de la classe, à mon sens, c'est à quel point ils sont mobiles. C'est hyper mobile, les chasseurs de démons, non?
C'est la classe la plus mobile du jeu. Ils ont bien dit, Blizzard a bien dit que c'était, ils voulaient en faire la classe la plus mobile du jeu. Effectivement, on a les dashs, hein, qui permettent de dasher à gauche, à droite, en avant. On a un salto en arrière qui permet aussi de ralentir les ennemis, et on a moyen de faire des doubles sauts et de planer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très mobile, hein. Pour fuir un chasseur de démons, il va falloir y aller quand même.
et donc
d'ailleurs,
vas-y.
Non, je voulais juste dire d'ailleurs, la zone de départ du chasseur de démons tient compte justement de ses possibilités de planer, etc. Et elle est quand même assez réussie de ce côté-là pour découvrir le chasseur de démons, justement.
Ouais, on aura une zone de départ qui nous amène du niveau 98 au niveau 100, comme on avait la zone de départ des Chevaliers de la Mort qui nous amenait du niveau 58 au niveau 60 à l'époque, et qui le fait toujours d'ailleurs. Et du coup, effectivement, moi je l'ai trouvé un peu noire et verte quand même. C'était un petit peu toujours noire et verte la zone de départ, mais je l'ai faite au début de la bêta, donc peut-être que ça a changé depuis.
Ah non, mais c'est normal, c'est voulu. Hein. C'est une planète qui est très très gangrénée, qui a été explosée par Sargeras. Donc c'est un morceau de planète en fait, et oui, effectivement, c'est rempli de démons, etc. Donc c'est normal que ce soit noir et vert en fait.
Ouais, c'est Mardoom.
Mardoom.
Et effectivement, à jouer, par contre, c'est hyper agréable. C'est un petit peu l'équivalent du mage, mais en contact. Il est hyper fragile, il fait pas mal de dégâts, mais si vous réussissez à l'immobiliser et à lui taper dessus, a priori, il va pas faire très long feu. Pour ceux qui jouent à Heroes of the Storm, c'est un petit peu Illidan dans Heroes, quoi. Tu sautes dans le milieu de la mêlée, tu fais plein de dégâts et tu te barres très vite parce que sinon, tu tiens pas longtemps. Et puis, il y a plein de fonctionnalités aussi, de capacités. qui, à mon sens, sont rendus possibles parce que l'infrastructure d'Internet n'est plus ce qu'elle était à l'époque. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cibler un ennemi. On fait des attaques sur des zones ou sur des points. Il y a le rayon laser avec les yeux là qui attaque sur une petite zone. Il y en a plusieurs comme ça. Le dash, c'est un petit peu le dash de Genji dans Overwatch. On fonce vers un truc et puis ça fait des dégâts à ceux qui sont sur le chemin, etc., etc. C'est j'attendrai de enfin évidemment je vais jouer mon chasseur de démons comme tout le monde le 17 octobre ou août, pourquoi je dis octobre à chaque fois, le 17 août au plus tard, mais ouais, ça c'est, je suis assez excité par les possibilités de gameplay en fait de cette nouvelle classe.
J'en ai monté le 110 sur la bêta et effectivement j'ai pris du plaisir à le jouer. Puis ça fait plaisir de jouer une nouvelle classe, surtout hein, quand on joue toujours les mêmes classes et qu'on en a une nouvelle, effectivement c'est toujours plaisant. Alors que c'est vrai que le moine, j'ai pas du tout accroché à cette classe. Le DH c'est vraiment vraiment sympa à jouer
hein. Ouais, et t'as joué jusqu'au niveau 110 quand même?
Ouais, je l'ai monté niveau 110 mon DH.
D'accord. Et donc c'était pas monotone au bout d'un moment, tu confirmes que c'était...
Ah non non, ouais, c'est une très bonne, bon il y en a certains qui sont pas complètement contents de cette classe là et du coup ils vont pas la jouer et heureusement, parce que sinon on serait envahi de DH quoi.
Je pense qu'au début ça va être le cas effectivement, mais
ah oui je ouais. pense ouais.
Donc voilà, ça arrivera le 17 août au plus tard. J'ai dit août et pas octobre cette fois-ci. Bon, good job Patrick. Et donc ça sera l'arrivée des chasseurs de démons. Encore une fois, pour ceux qui ont pré-acheté l'extension et pas juste pré-commandé. Hein. C'est vraiment, il faut l'avoir déjà payé quoi. Et donc on arrive au 30 août avec la sortie de Légion, spécifiquement. Pour ceux qui se rendent pas compte, on a fait 40 minutes juste sur ce qui se passait, ce qui était quasiment déjà disponible et ce qui arrive dans les semaines à venir. Et là, on n'a même pas touché au vrai contenu de l'extension qui va arriver donc au lancement, au vrai lancement le 30 août. Donc, on va vous parler de quoi ? Des îles brisées, des armes prodigieuses, des halls de classe, des quêtes mondiales, etc., etc. Il y a plein d'autres choses en plus. Commençons avec les îles brisées, donc le nouveau continent qui est tout à coup découvert sur la carte quand Légion arrive. C'est genre ah, mais il y avait un continent ici. Ok, d'accord. Bon, ok. Un petit peu comme pour Pandaria, c'est un truc qui était caché, qu'on voyait pas, qui était sorti de l'eau, je sais plus quoi.
Oui, encore là. Oui, d'accord. C'était caché dans la brume. Les gens passaient à côté, ils la voyaient pas. Alors que là, non, il n'y a pas d'explication, c'est juste, hein.
Ah, ok, allons par là alors, d'accord, ok. Et donc, c'est 5 zones très grandes zones, et avec 4 zones de leveling et une zone finale de niveau 110. Et le truc particulier, c'est que les 4 zones de leveling, en fait, ne sont pas segmentées par niveau. Vous pouvez y aller dans n'importe quelle zone, aller où vous voulez, faire ce que vous voulez, et le contenu va s'adapter à votre niveau. Et non seulement ça, le contenu s'adapte au niveau du joueur, même si il y a plusieurs joueurs de différents niveaux qui font des aventures ensemble. C'est-à-dire que si vous êtes niveau 102 dans une zone et qu'il y a quelqu'un qui est niveau 108, vous allez faire des dégâts aux mobs. Ben, pour vous, les mobs seront niveau 102 et pour le personnage niveau 108, les mobs seront niveau 108. Et en plus, si vous voulez soigner votre pote, vous allez le soigner avec un pourcentage des points de vie qui est approprié aux dégâts qu'il prend. Donc, en fait, ça veut dire que ces 4 zones sont entièrement libres et vous pouvez y aller faire ce que vous voulez, comme vous voulez, sans vous soucier de votre niveau et du niveau auquel vous devez être dans telle ou telle zone, quoi. C'est un bon changement ou un mauvais changement, ça ?
Alors, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont dire que c'est mauvais parce que du coup, ils voient pas une espèce d'amélioration de leur DPS sur les mobs, etc.
De progression, ouais, t'as systématiquement...
Cela dit, quand vous serez full stuff, vous verrez la différence hein, avec le début de l'extension. Mais c'est surtout pour le pexing, du coup, ça rend la chose sympa parce que ça nous permet de choisir justement dans quel ordre on veut faire les zones. Et aussi de décharger un petit peu les serveurs pour pas avoir 50 milliards de personnages qui font les mêmes quêtes au même moment, surtout à la sortie de l'extension en fait. Donc déjà rien que pour ça, ça peut rendre la sortie de l'extension plus fluide et moins catastrophique que ce qu'on a pu voir par le passé quoi.
C'est vrai que le truc dont que j'ai entendu, la réaction que j'ai entendue de la plupart des joueurs qui ont testé ça dans la bêta, c'est que le résultat inattendu de ce nouveau système, c'est qu'en fait t'es pas préoccupé par ton niveau systématiquement et par les quêtes en fait que tu ne veux plus faire parce que de toute façon t'es plus au niveau de la zone. Donc t'es à la moitié de l'histoire de la zone et puis tu passes de niveau et donc tu dis ah merde faut que j'aille dans la zone suivante donc bah tant pis j'oublie les quêtes. Là en fait tu fais juste les quêtes, tu suis l'histoire et tu prends plaisir à suivre ce qui se passe dans le jeu. Alors bon, faudra voir, ça se trouve au bout d'un moment ça devient pénible parce que justement on n'a pas ce sentiment de progression, c'est possible. Et puis peut-être que pour les altes ça sera un petit peu pénible aussi de devoir, enfin peut-être que ça affectera ça d'une autre manière, mais moi j'avoue que le truc qui me gênait dans les extensions précédentes, c'était que effectivement t'étais au milieu de l'histoire de la zone qui a généralement une histoire spécifique et puis tu t'arrêtais au milieu. Ouais, c'est ça. Et tu t'arrêtais au milieu parce que t'avais passé ton niveau, quoi.
Mmh. Ouais, moi, mais je pense que
Oui, vas-y.
Au bout d'un moment, dans une extension, les.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'XP que tu gagnes t'apporte beaucoup plus de, enfin te fait level up beaucoup plus rapidement en fait. Donc du coup, au début d'une extension ça va, t'as le temps de faire toutes les quêtes d'une zone avant de level up. Sauf que au bout d'un moment le leveling devient plus rapide et du coup tu peux plus, effectivement t'as plus le temps de faire toutes les quêtes principales, t'es obligé de switcher parce que la zone est plus à ton niveau. Donc effectivement ce problème là sera réglé. Mmh.
Julien.
Et puis moi je pense que en ce qui concerne la progression, tu l'as de toute façon via le stuff que tu récupères. Et cette histoire de pouvoir commencer où on veut et dans n'importe quelle zone, je trouve que ça met beaucoup plus en avant l'histoire de la zone et tu fais peut-être beaucoup plus attention aux quêtes. Donc l'histoire, moi j'ai beaucoup aimé les zones que j'ai faites sur les îles brisées. Et il y a une vraie histoire, notamment à Valshara, il se passe tellement de choses que tu es concentré sur ce qui se passe et sur les PNJ et sur toute l'histoire de la zone et tu fais peut-être du coup moins attention au fait que les mobs soient de tel niveau ou de tel niveau, c'est pas très grave. Mmh. Et tu profites de l'histoire beaucoup plus que, on va dire, si tu étais revenu à Valshara avec un personnage beaucoup trop puissant, eh bien, tu profites pas du tout des combats et de la même façon. Ouais. Donc pour ça, je pense que c'est quand même une bonne chose de ça offre plus de liberté aux joueurs. C'est, ah tiens, moi j'ai vu des screenshots de Auroch, j'ai envie d'y aller. Ah bah vas-y, va Auroch, il y a pas de problème. C'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. Non, fonce, tu vas Auroch si t'en as envie et après t'iras où tu veux. Ouais. Donc moi je trouve que c'est quand même positif.
Et il y a aussi la zone donc de Souramar niveau 110, qui est une zone niveau maximum où il y a principalement de l'histoire. Il y a très peu de récompenses visiblement, c'est principalement de l'histoire. Et c'est la ville où ont grandi les frères Hurlerage, Illidan et Malfurion. Et donc c'est vrai que il y a par exemple les BD de, il y a 3 ou 4 BD qui sont disponibles pour l'introduction à Légion. Et la BD sur Souramar, sur ce qui se passe à Souramar, moi j'ai envie de savoir la suite tout de suite, quoi. C'est des trucs qui sont vraiment excitants.
Oui, pour les amateurs du lore, c'est fantastique. Sincèrement, mm-hmm. Je dois dire que moi j'aime bien le lore, je suis pas un fanatique non plus, et je vais pas repérer toutes les petites erreurs où je me souviens pas ce qu'a dit Illidan, il y a telle phrase exactement, mais je dois dire qu'à une zone comme Valshara, on est passionné du début à la fin par tout ce qui se passe et par tous les PNJ qu'on rencontre.
Ouais.
Donc, je pense qu'on va pas spoiler. Mais c'est vraiment impressionnant. Bon,
je suis resté, j'ai pas fait la bêta justement pour ne pas trop me spoiler, déjà que je suis de retour à fond depuis quelques semaines. Mais
Mon Dieu, tu vas t'éclater. Il y a des zones, c'est vraiment terrible.
Juste ouais. pour rafraîchir ta mémoire, Julien, en fait, Illidan, c'est celui qui dit « You are not prepared !» Tu vois, c'est lui. je sais que t'as pas une bonne mémoire, mais c'est lui.
D'accord.
Ouais, voilà. En fait, c'est pour ça que tu vois. Les artefacts, tiens, les armes prodigieuses. Parlons-en parce qu'on parlait de progression et en fait, les armes prodigieuses, on les obtient au niveau, je crois, 102, quelque chose comme ça. Donc assez tôt dans la progression. C'est 102 ou même avant peut-être, je sais plus.
La première, tu l'as dès le début, avant même de commencer tes quêtes dans les zones, d'accord. En fait. C'est vraiment la première chose que tu vas faire, c'est aller récupérer ton arme. Par contre, les armes prodigieuses de tes autres spés, tu les as au niveau 102. Tu peux aller faire les quêtes pour les récupérer au level 102.
D'accord.
Voilà, alors oui, donc, exactement.
Donc, qu'est-ce que c'est que ces armes prodigieuses? En fait, c'est des armes, vous savez, toutes les armes les plus puissantes de l'histoire de World of Warcraft, des trucs, bon, peut-être pas Frostmourne spécifiquement, mais le Doomhammer, toutes ces armes.
Il y a Frostmourne aussi.
Il y a Frostmourne aussi, on peut avoir.
Ce sont des éclats pour le dégât givre. Ce sont les éclats de Frostmourne, donc, c'est en quelque sorte Frostmourne qui a été reforgé en deux épées, en fait.
Ouais. Donc etc. Toutes ces armes, eh bien, on peut les utiliser. Et en fait, c'est un système qui est un petit peu, qui nous rappelle un peu le Path of the Titans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque justement de Wrath of the Lich King, je crois, ils avaient parlé, ou peut-être Cataclysme, ils avaient parlé de ce système de progression supplémentaire au niveau maximum, où on avait un arbre de talent, genre une sorte de constellation, qui nous permettrait d'avoir différents types de bonus en plus, et ben là ils l'ont retravaillé avec la progression de ces armes prodigieuses, de ces artefacts, quand vous l'obtenez en fait, vous garderez cette arme du début à la fin de l'extension. Donc vous n'avez qu'une seule arme du début à la fin de l'extension par spécialisation, et vous allez pouvoir faire augmenter sa puissance. Et quand la puissance de l'arme augmente, vous pouvez mettre des reliques dedans qui marchent un petit peu comme des gemmes pour augmenter le high level de l'arme. Et puis il y a, comme je le disais, donc cette sorte d'arbre de talent avec au tout début une capacité supplémentaire. Donc vous avez une capacité, un bouton sur lequel vous appuyez, donc un sort ou une habilité, et puis vous avez, avec la puissance que vous accumulez, vous pouvez ajouter des points dans cette sorte de constellation de talents qui vont, pour les mineurs, vous donner des capacités, des points de stats en plus, et puis pour les majeurs, il y en a 3 ou 4 qui changent le fonctionnement de certaines de vos capacités. Donc et en plus il y a l'apparence de vos armes est énormément customisable, vous pouvez vraiment la changer énormément, parce qu'évidemment si tout le monde a la même arme, il faut qu'elle soit un petit peu différenciée, donc ils ont beaucoup travaillé sur la customisation des apparences. C'est un bon résumé de l'ensemble des armes prodigieuses, ouais.
C'est un bon résumé. Après, faut parler de la manière dont on l'améliore, c'est un système qui est extrêmement bien travaillé, puisque en gros, il faut récupérer des espèces d'objets qu'on va looter un petit peu partout, qui vont nous donner justement ces points de puissance prodigieuse. Et en gros, ça peut se looter sur des mobs comme ça de temps en temps. Ça peut se looter dans les quêtes mondiales, on va en parler un petit peu après. Ça peut se looter en donjons, etc. Et il y a un système de recherche sur l'arme prodigieuse qui permet justement, au fil des semaines, d'augmenter le nombre de points qu'on va pouvoir récupérer via ces objets, en fait. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que si vous voulez augmenter votre arme, enfin votre spécialisation principale, eh bien vous pouvez commencer à prendre votre spécialisation principale pour votre bot pexing, commencer à améliorer votre arme, ça va vous donner un petit peu de points, mais au fil des semaines, en fait, avec la recherche sur l'arme prodigieuse, qu'on peut faire tous les jours jusqu'au niveau 10, et après passer le niveau 10, c'est tous les 3 jours qu'on peut augmenter ce niveau. Pour savoir, là, sur la bêta, je suis à plus 2250% au niveau 14 de recherche. Voilà, donc c'est vraiment pour dire que si vous êtes inquiété par le fait de j'ai envie quand même de monter ma SP2, mais le problème c'est que si je monte aussi ma SP2, je vais perdre des points sur ma SP principale. Faut savoir que si vous avez, par exemple, comme moi, 2250% de plus sur la recherche, enfin sur vos points, vous prenez juste un objet, ça va vous donner 7000 points de puissance prodigieuse, et avec ces 7000 points, si vous êtes au niveau 1 sur votre SP2, vous allez gagner directement 12 points de talent. Donc vous allez rattraper très 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 rapidement votre SP1 sans bien sûr être au même niveau. Il y aura votre SP1 sera toujours plus haut niveau que votre SP2 bien sûr, mais vous n'allez pas avoir un écart extrêmement long en fait.
Je pense qu'on parle de 80-90% de la puissance de la SP1 environ, hein, je pense.
Ce qu'ils disent, en fait, c'est que effectivement, la quantité de points nécessaire est exponentielle et la quantité de points qu'on gagne est exponentielle aussi. Mais du coup, pour simplifier les choses, il est très très simple de garder l'arme off-spec à 80% ou 85% de la puissance de la spec principale. Et en plus, mais bon, ça veut dire que si on veut maintenir 3 specs, il faut 3 armes. Mais il n'empêche que on peut très très facilement maintenir les off-specs à 80% de la spec principale. Donc, on peut effectivement avoir un petit peu les 3, quoi.
Oui, complètement.
Ouais, quelque chose à ajouter sur les armes prodigieuses? Elles sont sympas à utiliser, c'est des trucs, ça change.
Pour ceux qui se posent la question, on n'est pas obligé d'utiliser les skins des armes prodigieuses, on peut aussi les transmogrifier en n'importe quel autre skin.
Donc tu peux transformer ta Frostmourne en 2 couteaux à beurre, quoi, si tu veux.
Voilà, c'est ça, exactement.
C'est l'idée, oui, effectivement. Bah, disons que c'est vrai que ça permet justement de ne pas avoir la même arme que tout le monde. Donc les transmos, on va dire, alternatifs des armes prodigieuses sont très bien. Mais effectivement, tu peux très bien te dire, ah ben non, moi j'aime bien la skin de telle arme que j'avais sur Warlords ou autre chose. Et tu dis, ah ben non, je vais prendre celle-là parce que sur le look de mon personnage, ça va mieux et ce genre de choses. Donc c'est tout à fait possible.
Ouais, et il y avait une critique qui était pas fausse, qui disait, bah tout le monde va avoir, d'une part, tout le monde va avoir Frostmourne ou tout le monde va avoir Doomhammer, tout le monde va avoir la même arme, ce qui est un petit peu couillon, mais bon, etc. Voilà. Mais d'un autre côté, tout le monde aussi dans le jeu tel qu'il était jusqu'à maintenant, tout le monde chassait la même arme spécifiquement sur tel boss, et donc tout le monde l'avait aussi, quoi, y compris les armes légendaires. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais bon, enfin, on s'en fout, c'est un jeu, quoi.
Oui, c'est ça. Il y a aussi autre chose sur l'arme prodigieuse, c'est des reliques en fait. C'est-à-dire que les reliques, c'est ce qui va vous permettre d'augmenter l'e-level de votre arme, dans le sens où c'est ce qui va remplacer les armes qu'on lootait avant. C'est-à-dire que au lieu de looter des armes sur les boss, vous allez looter ces reliques qui vont vous apporter de l'e-level principalement et des talents sur votre arbre de talent de l'arme prodigieuse. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple à 3 sur 3 sur une arme, eh bien vous allez pouvoir avoir avec ce talent avoir 4 sur 4 sur un talent qui augmente par exemple les dégâts de votre coup déchaîné par exemple sur le war ou de votre boule de feu, etc.
Donc, c'est-à-dire que les reliques ont spécifiquement l'une de leurs statistiques qui est donne un point de talent en plus sur tel talent de l'arme prodigieuse. Donc, vous pouvez choisir d'utiliser tel ou tel. Et ça marche comme les gemmes. Vous pouvez écraser l'ancienne avec la nouvelle si vous le souhaitez.
C'est ça.
Un dernier petit point sur les armes prodigieuses, c'est que Blizzard n'exclut pas la possibilité qu'on les utilise sur l'extension suivante. En fonction de la réception qu'auront ces armes prodigieuses, en l'occurrence auprès des joueurs.
C'est ça.
Les halls de classe, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors en fait, c'est un petit peu mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un, je crois qu'il y a un jeune garçon qui est très heureux des halls de classe là chez Julien, non? C'est pas ça?
Oui, il y a le fiston, t'as entendu le fiston rire effectivement.
Ah bah oui, les halls de classe, c'est enthousiasmant forcément. En fait, c'est un petit peu les fiefs, mais sans tous les problèmes des fiefs qu'on a évoqué longuement en début d'émission. En fait, le hall de classe, c'est un endroit où vous allez réunir tous les gens de votre classe et vous allez tous vous réunir pour décider, parce que la Horde et l'Alliance, ils se battent un petit peu, ils sont pas en train de comprendre le problème qu'est la Légion. Donc vous dites, bon, nous les paladins, on est sérieux, on veut combattre la Légion, allez, on se met tous ensemble, et vous créez votre hall de classe, vous allez dans votre hall de classe où il y a tous les paladins, et vous avez des followers, des compagnons, un petit peu comme dans les fiefs, sauf que vous n'allez pas les envoyer pour vous ramener du loot, vous allez les envoyer en mission, et ce qu'ils font, c'est qu'ils vous ramènent de l'information pour que vous, ensuite, quand vous allez chasser un mob spécifique, un boss dans un donjon, par exemple, eh ben vous avez un loot en plus. Donc, c'est juste un exemple, et je suis sûr que vous pourrez m'en donner d'autres parce que vous connaissez mieux le système, mais c'est juste un exemple pour montrer que la manière dont ils ont approché cette façon de repenser les fiefs, c'est d'une part amener plein de gens dans cette zone pour qu'on se sente pas tout seul, et puis il n'y a pas autant de choses à faire dans la zone, et ensuite ça vous fait ressortir dans le monde au lieu de vous laisser enfermer dans la zone en question, et vous devez aller faire des trucs, ça vous amène pas les trucs directement. C'est une bonne description. Il y a des choses en plus à dire, j'imagine, Bastien peut-être.
Sur le domaine de classe, moi, ce que j'aime bien sur ce domaine de classe, c'est que ça va vous permettre justement de d'être avec les gens de votre classe, tout simplement, et de pouvoir discuter avec d'autres joueurs de votre serveur ou des serveurs qui sont liés sur la meilleure façon de jouer votre classe sans avoir besoin de passer sur un forum ou voilà. Donc c'est quelque chose qui est voilà, ça dépendra surtout de la communauté et de la manière dont les gens prennent la chose.
Je sais pas si c'est quelque chose qui va beaucoup se faire.
Voilà, non, mais
si c'est la communauté.
Moi, j'y crois, j'ai envie d'y croire. En fait. On verra bien.
Moi, ce que j'aime bien dans les domaines de classe, c'est qu'il n'y a pas trop de choses dans le domaine de classe. Voilà. Donc, tu n'as pas tous les services habituels qu'on avait, style banque, dans le fief. Il n'y a pas de transmo. Du coup, les gens vont moins y aller.
Ouais.
On est obligé d'y aller pour augmenter notre arme prodigieuse, parce que c'est là qu'on a notre forge pour mettre les points sur l'arme prodigieuse. D'accord, faire les recherches, etc.
Ouais. Et puis,
mais sinon, en gros, tu iras à Dalaran pour aller faire les services habituels, style banque. Ouais. Il y aura le canal de discussion, ça oui, le canal de commerce, par exemple, sera dispo dans le domaine de classe, mais pour dire que tu rates pas quelque chose. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup de choses que tu ne feras pas dans ton domaine de classe. Et que tu devras aller à Dalaran pour effectuer certaines actions.
Il y a un petit arbre de talent aussi avec 5 choix binaires pour le domaine de classe qu'on peut augmenter. Il y a, comme je le disais, c'est une sorte de d'interface pour envoyer nos compagnons en mission, mais il y en a juste 5 ou 6, je crois, c'est pas du tout 25.
On peut en avoir 5. Ouais. On est obligé de les choisir ceux qu'on préfère, en fait.
Et puis tu l'as mentionné, mais on l'avait pas dit. Dalaran fait son retour. Ils ont déplacé la cité de Dalaran et ils l'ont améliorée graphiquement. C'était marrant ça parce que j'y suis allé et je me suis dit bah c'est Dalaran. Qu'est-ce qui a changé? Et puis j'ai vu une vidéo de comparaison entre l'ancien et le nouveau Dalaran. Et là tu te rends compte, c'est vrai. Ah, ok, d'accord. En fait, c'est exactement la même chose, mais juste refait avec les standards graphiques d'aujourd'hui. Le Dalaran d'il y a 8 ans maintenant avec Wrath of the Lich King, tu sens qu'il a 8 ans, quoi. Et le nouveau est normal, mais c'est marrant avec ce style graphique et le souvenir. En fait, quand il va la première fois, tu te rends pas compte du tout qu'ils l'ont amélioré graphiquement, quoi.
Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment la même réflexion que je me suis faite à l'époque. C'est tu arrives et tu as presque l'impression d'être en Orfandre.
Ouais.
Donc et ce qui est sympa évidemment, c'est que tu t'y retrouves tout de suite en ville. Donc tu n'as pas la période d'adaptation en disant tiens, telle boutique où est-elle, etc., la banque. Donc de ce côté-là, c'est vrai que le côté nostalgie joue un peu évidemment, puisque c'est une zone où on a passé tous beaucoup de temps et ça fait plaisir d'y revenir, même si d'un côté on se dit ah zut, c'est pas nouveau. Ouais. Mais
c'est quand même une super capitale. En plus, on est entre Horde et Alliance, et ça c'est génial, quoi. On n'est pas tous les deux dans notre propre capitale comme on avait à MOP et à WoD. Là, on est vraiment dans une capitale où on croise des gens, en fait. Et ça c'est bien, j'aime bien. Ouais.
Un autre système, et là on arrive un petit peu dans la section inspiration Diablo 3. C'est le système des quêtes mondiales qui sont, pour schématiser pour ceux qui ont joué à Diablo 3, c'est une repensée à la sauce World of Warcraft du mode aventure de Diablo 3 Reaper of Souls. Il y a des centaines de quêtes différentes en fait qui apparaissent dans le monde quand vous ouvrez votre carte. Dans laquelle d'ailleurs on peut zoomer à la Google Maps, hein, dans les cartes de toutes les cartes du jeu, ce qui est hyper hyper pratique, y compris la carte de vol quand vous voulez savoir où vous voulez aller, vous pouvez zoomer dans la carte. Bref, et donc il y a des quêtes qui apparaissent partout sur la carte et vous pouvez aller les faire. Et vous avez en plus des émissaires de différentes factions qui vont vous proposer de faire par jour 4 quêtes pour leur faction, donc des quêtes spécifiques parmi ces quêtes mondiales, et ça vous donnera une récompense en plus, et ça vous pouvez en emmagasiner pour 3 jours. Donc si vous jouez pas pendant 3 jours ou même vous jouez une fois le week-end, et ben vous en avez quand même un petit paquet à faire, mais ça veut dire que vous avez pas forcément besoin de vous connecter tous les jours. Et puis il y a plein de types de quêtes différents qui sont de trivial à difficulté assez significative. Il y a des trucs, des quêtes pour tuer des trucs, pour faire des donjons, pour des professions, pour les professions de collecte, etc.
Il y en a 1000 de différentes.
1000, d'accord.
Prévu, ouais, 1000.
C'est alors, ça fonctionne ce truc, c'est sympa à faire, ou c'est genre sympa, merde, ouais. Il faut encore que j'aille faire mes quêtes quotidiennes, enfin mes quêtes mondiales du jour.
Alors justement, l'intérêt, c'est que ça remplace justement ce qu'on avait dans les autres extensions, ce qui était les quêtes journalières. En fait, le problème des quêtes journalières, c'est que ça nous forçait à nous connecter tous les jours sur le jeu pour pouvoir récupérer des choses qui vont nous faire évoluer, en fait. Donc là, comme tu l'as dit, on pourra stocker les trois quêtes différentes. C'est ce qu'on appelle les expéditions, en fait, qui sont liées à chaque réputation des îles brisées, et donc on doit faire 4 quêtes pour avoir une récompense, et ça on peut en avoir une par jour, donc c'est réinitialisé, je crois que ce sera tous les matins à 9h, quelque chose comme ça. Et du coup, ce qui va être bien avec ces quêtes là c'est que ça va nous permettre justement de continuer à explorer les zones du pexing, en fait. C'est à dire que dans WoD actuellement, on va à Tanaan pour pouvoir faire des quêtes, mais on a que Tanaan. C'est comme si aux îles brisées, au level 110, on serait obligé d'aller à Suramar pour faire des quêtes et rester à Suramar et ne plus explorer les autres zones. Alors que là, non.
Oui, parce que on l'a pas précisé, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Les zones de leveling, donc les 4 zones qui s'adaptent à votre niveau, comme je le disais, elles montent jusqu'au niveau 110. Donc voilà, une fois que vous êtes niveau 110, tout le continent est adapté à votre niveau, quoi.
Voilà. Donc ça va nous permettre justement d'utiliser toutes les zones à leur plein potentiel, en fait, et d'explorer de fond. Ça va nous permettre justement d'explorer de fond en comble tout ce qu'elles peuvent nous proposer, quoi. Et ça va vraiment être génial. En fait.
Et puis il y a vraiment pour tous les goûts, hein, puisque les joueurs pourront voir des élites rares apparaître ci et là. Ceux qui aiment le combat de mascotte pourront faire du combat de mascotte avec les quêtes mondiales. Il y aura forcément du PVP, des World Boss,
etc. Il y a des quêtes mondiales PVP aussi, ouais. Alors, les quêtes mondiales PVP, c'est super parce que ça nous permet justement d'aller faire du PVP outdoor, c'est-à-dire du PVP sauvage. Et en fait, quand on va faire ces quêtes-là, on va alerter la faction adverse comme quoi on est en train de taper à cet endroit-là. Donc, ça permet de faire en sorte de faire revivre le PVP sauvage, tout simplement.
Et espérons que les serveurs croisés, je sais plus comment ça s'appelle, les serveurs mêlés là, permettent d'équilibrer les populations des factions, parce que sur certains serveurs, t'arrives, tu fais salut, je veux faire ma quête PVP, et là t'as 12 000 persos de la faction adverse qui te tombent sur la gueule.
Ouais.
C'est bon, on verra. Normalement les serveurs groupés sont suffisamment groupés pour équilibrer les populations. J'espère que ça sera le cas, quoi. Donc ça a l'air assez sympa. En fait, c'est un nouveau système de quêtes quotidiennes, quoi, finalement.
Qui nous permet de récupérer des récompenses diverses et variées, telles que des reliques pour notre arme, enfin du stuff en général, quoi, des épaulières, des gants, etc. Des ressources pour le domaine de classe, hein, comme on en a parlé tout à l'heure. De l'argent, tout simplement. Bon, c'est le moins intéressant, hein, du coup, parce que ça donne pas des masses d'argent. C'est à peu près 100 PO par quête, donc c'est pas ouf. Et surtout, de la puissance pour notre arme prodigieuse. Hein. C'est vraiment le principal moyen d'en gagner, en fait.
Ce que disaient les développeurs, c'est que pour l'arme prodigieuse, tu accumules de la puissance en faisant, enfin quoi que tu fasses, en fait, tu accumules toujours un petit peu de puissance. Du coup, c'est plus la puissance de l'arme prodigieuse, c'est une mesure de combien tu as joué plutôt que une mesure du drop que tu as eu. Même si les reliques, c'est des drops dont tu peux avoir des meilleures qualités si tu fais des meilleurs donjons, mais dans l'ensemble, tu peux continuer à augmenter ton arme si tu joues. Et t'es pas obligé de faire un type de contenu spécifique, genre uniquement 7 quêtes pour augmenter la puissance de ton arme, quoi.
Et quoi que tu fasses, t'en gagneras. Que tu fasses du PVP, du donjon, du raid, des quêtes mondiales, tu gagneras de la puissance artefact, toi.
Les donjons mythiques plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Là encore, je pense qu'on peut faire un lien de comparaison distant avec le cousin Diablo 3 et les Greater Rifts, les failles supérieures. C'est ça en français?
Il y a beaucoup de liens avec Diablo 3, hein, que ce soit dans les classes, que ce soit les quêtes mondiales, que ce soit, on en parlera après peut-être, les objets légendaires, les Greater Rifts, etc. Ouais, il y a beaucoup de liens. C'est vrai que c'est exactement ça en fait.
Donc en fait, là, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on obtient des clés, des keystones, des clés.
Ouais, des pierres clés. Ouais.
Des pierres clés qu'on peut insérer dans le donjon en fait avant de le faire, et si on réussit à finir le donjon dans le temps imparti, qui est pas un temps de mode challenge, hein, c'est pas hyper difficile, mais c'est quand même histoire que vous puissiez pas prendre 2 heures pour finir le donjon, mais si on le finit, vous augmentez la puissance de votre keystone, et il y a en gros 6 niveaux de ou plus, un petit peu plus, mais c'est genre une dizaine de niveaux. Pas beaucoup plus, ça va pas à 35-50 comme c'est le cas dans Diablo. Et donc, à chaque niveau de pierre supplémentaire, il va y avoir la difficulté du donjon qui augmente. Avec niveau 1 ou 2, c'est juste que les monstres ont plus font plus de dégâts et ont plus de points de vie. Niveau 3 à 5, ils ont une affixe. Et niveau 6, il y a des nouvelles affixes qui arrivent. Et les affixes, c'est genre tyrannique, ça veut dire que les boss ont énormément de points de vie et de dégâts. Il y a des affixes qui font que les trash, quand ils meurent, ils buffent leurs alliés, donc vous devez les tuer aussi près que possible tous en même temps. Il y en a qui ont une sorte d'enrage, ils font plus de dégâts à bas niveau. Il y a des affixes pour les niveaux 6+, ça devient un petit peu compliqué. Il y a des trucs genre le groupe entier prend des dégâts pendant tout le donjon non-stop, il y a des dégâts constants, etc. Il y a plein d'affixes, je vais pas toutes les lire.
Ah, des trucs plus vicieux, hein, genre le tank qui génère moins de menaces ou ce genre de choses.
Ouais, le tank qui perd l'aggro en permanence.
Ouais. donc faudra faire très attention à gérer votre menace quand il y aura 7 affixes, etc. Donc c'est un système assez intéressant pour faire progresser le niveau des donjons. Et sans, en fait, pour garder les donjons intéressants jusqu'à la fin de l'extension, en fait. Pour vous donner une idée, niveau 6, les monstres auront 59% de points de vie en plus. Donc, c'est vraiment de points de vie et de dégâts en plus. Alors que niveau 1, ils ont 9%. Ça commence lentement et puis ça augmente beaucoup avec votre puissance. Et donc, les donjons, il y a plusieurs effets. D'une part, les donjons resteront intéressants à faire jusqu'à la fin de l'extension, a priori, ou presque. Et puis, d'autre part, un truc qui est marrant, c'est que les gens qui vont vous demander pour faire un groupe, pour faire un donjon mythique. Généralement, les gens sur le jeu tel qu'il est actuellement vont dire « Ah bah, il faut être minimum level 700, sinon c'est pas la peine, on va le farmer, machin. » Et là, le problème, c'est que si vous êtes un e-level trop élevé, eh ben vous allez faire un donjon mythique de niveau plus élevé. Vous avez pas le temps de vous emmerder avec le donjon niveau 1. Donc les gens vont pas pouvoir vous demander d'être high level 950 si c'est pour faire un donjon mythique niveau 2, quoi. Donc les groupes ne vont pas pouvoir se permettre de vous refuser. Enfin, ils pourront, mais a priori ça équilibrera ces demandes. Et si vous êtes à un niveau où vous pensez que normalement vous pouvez faire ce donjon, et ben a priori j'espère vous pourrez trouver un groupe pour, parce que bien sûr ça marche pas avec le truc de recherche de groupe, quoi. Mais
et par rapport à votre niveau, en récompense vous pourrez avoir du stuff équivalent à ce qu'on peut trouver en mythique, hein, par rapport au niveau où, au maximum
en raid mythique, tu veux dire,
vous avez pu aller, voilà, en raid mythique, ouais.
Ouais, donc là encore, bon, je pense que le système a pas encore été beaucoup utilisé, enfin par moi en tout cas, je sais pas pour vous. Enfin moi je l'ai pas utilisé du tout, j'ai pas fait le contenu de l'extension, donc on sait pas si ça pourrait avoir des conséquences négatives. Je crois que la conséquence négative, c'est peut-être l'idée de se dire comme pour le leveling, on devient jamais si puissant que le contenu qui était difficile avant est devenu trivial. Donc on a peut-être moins cette impression de surpuissance. Encore que on peut peut-être aller faire les anciens donjons à des niveaux plus faibles, mais bon, c'est peut-être le petit hic que je peux voir dans ce système. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a l'air quand même d'être un bon moyen de faire des trucs avec des groupes de 5. On n'a pas besoin d'être 40 ou d'aller en looking for en recherche de groupe pour les raids. On est 5, on peut communiquer, on parle, et on établit des stratégies pour des donjons un petit peu difficiles. On n'y va pas YOLO, de toute façon, le tank perd jamais l'aggro, donc on a haut tout, quoi.
Oui, et puis c'est une chose à faire en plus dans le jeu. On s'est beaucoup plaint dans Warlords qu'on s'ennuyait à certains moments. Eh bien voilà, dans Légion, on a plus de choses à faire. Alors bon, les gens n'aiment pas les donjons mythiques plus, eh bien ils iront faire autre chose. Mais d'autres se diront certainement, ah bah là, je joue avec mes potes de guilde. Ah bah les gars, on va se faire la salle des valeureux. Les salles des valeureux, hop, allez, on tente le niveau 6, 7, 8. Et ce sont des choses à faire en plus dans le jeu.
Et on commence à comprendre pourquoi Légion a mis autant de temps à sortir.
Oui, ouais, c'est assez colossal, oui.
Ouais, vous êtes d'accord, c'est pas une impression, hein. Oh, peut-être qu'on garde ses conclusions pour après. Mais d'accord, d'autres remarques sur les donjons mythiques plus ? Non ?
Non, moi j'ai pas pu les essayer sur la bêta encore, donc je peux pas trop en parler pour l'instant.
Ouais, c'était vraiment le truc faux. Vas-y, Julien.
Non, je disais non, moi non plus, j'ai pas essayé. Donc après, Bastien, tu parlais du stuff, on pourra se stuffer.
Par rapport à votre niveau maximum de donjons effectués, c'est-à-dire si vous avez eu votre keystone au niveau 6 ou 7, vous aurez des récompenses en fonction, en fait. Donc vous aurez un coffre toutes les semaines qui vous permettra de gagner le stuff équivalent à votre performance de la semaine, en fait.
Voilà, on pourra se stuffer vraiment très bien, même si on n'aura pas le stuff non plus si on fait les raids mythiques, évidemment.
Donc ça veut dire qu'on a un coffre qui apparaît de nulle part au bout d'une semaine, qui nous dit
dans le domaine de glace.
Vous avez bien joué. D'accord. Vous avez bien joué. Hop, voilà une récompense pour vous.
Voilà,
et si, en fait, c'est si jamais on fait un donjon mythique niveau 8, on obtient la même récompense que quelqu'un qui aurait fait un niveau 8 et 12 niveau 7 et 14 niveau 6, quoi. Sauf que lui aura eu en plus les récompenses dans le donjon, évidemment. Mais ce coffre-là, c'est assez intéressant comme système pour permettre aux gens qui jouent un petit peu moins de rester au niveau, quoi. C'est pas mal.
Oui, et puis comme tu disais, ça permet, si on n'est que 5 potes, d'aller de faire quelque chose d'équivalent en termes de difficulté à des raids mythiques, tout en étant dans un donjon à 5, quoi.
Ouais. Ok, la question des armes légendaires qu'on a évoquées et qui, là encore, sont un petit peu inspirées de Diablo. En fait, on pourra looter différentes armes légendaires à différents endroits.
Alors, ce ne sont pas des armes, ce sont des objets. Hein, parce que les armes prodigieuses, mais oui, ce sont des objets, du stuff, soit cap, anneau, collier,
de l'armure,
torse, épaule, etc. Voilà.
Oui, tout à fait. Non, tu fais bien de le préciser. Et est-ce qu'on pourra en équiper une ou deux maximum, une au début et puis deux avec je sais plus quel truc qui c'est dans le domaine
c'est
des classes,
le dernier palier de l'arbre de talent du domaine de classe, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure.
Et en fait, ce que ça fait, les armes légendaires, c'est plus du tout comme c'est le cas aujourd'hui. Les armes légendaires, c'est juste qu'elles ont... Bon, elles sont très puissantes, bien sûr. Pardon, je continue à dire armes. Les objets légendaires, c'est juste qu'ils sont très puissants, mais surtout, ils ont une capacité qui change... une capacité que vous avez déjà. Là encore, c'est un peu comme dans Diablo. Par exemple, un des effets légendaires pourrait être, quand vous n'avez pas pris de dégâts pendant 5 secondes, vous gagnez un bouclier qui va vous protéger de tel ou tel truc. Il y a certains trucs qui vous permettent certains sorts vont vous rendre d'autres sorts possibles à lancer pendant que vous bougez. Ou ce genre de truc, quoi. C'est vraiment des trucs différents, bizarres, qui influencent vos sorts existants, quoi.
Ah oui, ça nous buff. Il y a des objets qui sont plus puissants que d'autres en PvE où en fait ça marche même pas en PVP, en tout cas
ouais, c'est désactivé
dans
en
les
PVP,
dans le PVP outdoor, c'est peut-être activé, je ne sais pas, il me semble pas, mais c'est uniquement PVE, mais il y a des objets qui forcément seront plus intéressants que d'autres. Je vois par exemple sur le guerrier fureur, on a 6 tourbillons frappent 3 ennemis ou plus, il les touche 2 fois supplémentaires. Donc tu vois c'est vraiment, il y a des trucs qui sont vraiment énormes, quoi. Alors, le problème, c'est que, bon, c'est des objets qui vont être lootables un petit peu partout, c'est-à-dire qu'ils peuvent looter sur un pauvre cerf que vous allez tuer dans une région normale. Ça peut être looté en donjon mythique, en donjon héroïque, ça peut être looté en LFR, ça peut être looté partout.
Par contre, j'imagine après, il faut que les pourcentages sont moins élevés dans différentes situations, mais...
Voilà, vous avez plus de chances d'en looter en donjon mythique qu'en donjon héroïque.
Ouais. J'imagine que ça sera lié au personnage, ça sera pas vendable sur l'auction house, peut-être, remarquez. Mais...
Ah non, c'est vraiment lié qu'en ramasser. Hein.
Ouais, d'accord, donc c'est lié qu'en ramasser, du coup, j'imagine que ça sera adapté à votre classe comme tout le reste des objets, quoi.
Oui, tout à fait.
Ouais, ça aussi, je suis curieux de voir ce que ça donne aussi comme système pour varier un petit peu le gameplay et peut-être pour adapter vos talents ou votre spec à un objet que vous avez trouvé. Ça pourrait être intéressant dans la manière dont on approche le jeu.
Ouais, puis ça rajoute du fun, hein, sur le gameplay. Ça rajoute des affixes plutôt cool, quoi. Comme dans Diablo, en fait.
Ouais, ouais, ouais.
C'est là qu'on voit qu'il y a pas mal d'idées de Diablo qui ont été récupérées.
Ouais. Mmh.
D'autres, on arrive presque à la fin, hein, d'autres petits changements, il y a des quêtes pour les professions, on n'a pas trop parlé des professions, mais ça, enfin il y a plein de trucs qu'on n'a pas évoqué, hein. Franchement il y a plein d'autres changements dont on n'a pas parlé, rien que pour chaque classe vous pourriez passer 2 heures à parler des changements de chaque classe, mais bon, les professions, il y aura des quêtes pour les professions, on a parlé de Dalaran, pour les quêtes dans le monde, enfin dans Légion, dans les îles brisées, il y aura des petits portraits qui apparaissent pendant les quêtes pour vous expliquer l'histoire, un petit peu comme dans Warcraft 3 ou Starcraft 2. Il y aura un certain nombre de patchs qui ont été prévus, donc on aura une structure de patch qui sera un petit peu plus proche de celle de Mist of Pandaria que celle de Warlords of Draenor. Il y aura 3 niveaux de raid, avec 2 raids pour le premier tir de raid, donc qui sortiront dans quelques semaines et quelques mois après la sortie. 10 donjons qui sont nouveaux, enfin 10 donjons disponibles, au moins un qui est refait, ce sera Violet Hold, le bastion violet, je sais plus, pourpre, je sais plus comment il s'appelle en français,
hein.
Le fort pourpre, voilà, qui ramènera des souvenirs à beaucoup de gens, mais qui a été refait, repensé. Enfin, il y a plein de choses, quoi, au final, c'est un petit peu ce qu'on disait. Il y a des trucs dont vous voulez parler, que vous voulez évoquer parmi tout ça?
Ouais, le fait que les métiers, on les a survolés rapidement, mais ça va vous demander vraiment de vous investir réellement dans le farming si vous voulez vous faire de l'argent avec les métiers. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir farmer, passer pas mal de temps à récupérer des compos. Par contre, vous ne serez plus limité dans le temps. C'est-à-dire qu'avant, les compos principales pour les gros objets de craft, vous aviez un temps de recharge sur vos métiers, en fait. Et là, vous n'aurez plus ce temps de recharge. Par contre, vous aurez besoin d'un peu plus de compos, un peu plus de besoin d'aller vous trimballer à gauche, à droite pour aller récupérer des compos, en fait.
Et c'est des trucs liés comme ramasser.
Oui, c'est ça.
C'est le sang de Sargeras.
Ouais. Voilà, c'est ça, qu'on peut récupérer un petit peu partout.
Donc il faudra jouer vraiment pour les gens qui feront des trucs de profession, en fait, devront jouer, pourront pas le faire uniquement à l'auction house, par exemple,
voilà.
L'hôtel des ventes. Bon, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Les gens qui jouent beaucoup à l'hôtel des ventes, ça leur plaira peut-être moins, mais bon, il y aura encore des choses à faire à l'hôtel des ventes, bien sûr.
Ouais, et puis pour les métiers de récolte, tu seras obligé de revenir dans le monde et tu te limiteras plus à ton fief. Donc ça c'est un gros changement, évidemment. On va perdre l'habitude de juste récolter tout ça au fief et on va à nouveau se balader avec tout ce que ça peut engendrer comme surprise sur les royaumes PVP, par exemple.
Bon, donc ça fait quand même beaucoup de choses dont on a parlé dans cette petite heure et demie. Beaucoup de choses et
on
n'a
pas parlé
de
l'histoire aussi.
Il y a plein de choses qu'on n'a pas parlé, Patrick. Spoiler. C'est scandaleux.
Allez-y, dites-nous.
Sans spoiler l'histoire, pour avoir fait la bêta, il se passe des choses en fait. Dans cette extension, il se passe vraiment beaucoup de choses. On en apprend vraiment plus et on voit vraiment que là, l'histoire avance et ne recule pas comme on avait pu le voir dans World of Draenor. Vraiment, là, on avance. On est actuellement, on n'est plus dans le passé, ça se passe vraiment et on va vraiment se battre pour quelque chose d'important et il va y avoir des gros changements.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis particulièrement tombé amoureux de toutes les zones en même temps, au fur et à mesure que je les faisais. Tellement il se passe de choses. C'est terrible. Tu entres dans une zone, au début je me suis dit, bon, bah, je joue à Auroch, ok, il y a des montagnes, il y a des kobolds, etc. Et puis finalement, l'histoire avance, il se passe plein de trucs, parce que je sortais de Valshara où il se passe des choses, c'est terrible. Et finalement, Auroch, je me suis beaucoup amusé aussi, parce que tu peux... alors bon, c'est pas un spoil, mais tu peux incarner un Murloc. Donc il se passe plein de choses. Et voilà, tu t'amuses. Et un point qui pour moi est génial, c'est que Blizzard récompense énormément l'exploration. Donc moi je me rappelle, je me baladais, je sais plus quelle zone exactement, et hop, il y a une maison en feu au loin, ok, une maison en feu, alors tu te balades, il y a des monstres autour de la maison, au départ tu dis ok, elle est en feu, je m'en vais. Mais en fait non, si tu regardes bien, tu vois que la porte d'entrée est ouverte, à l'intérieur c'est en feu, mais tu peux entrer dans cette maison et éviter les flammes. Et à l'étage, il y a un PNJ, et tu peux récupérer une mascotte. Et c'est comme ça dans toutes les zones, dans plein d'endroits. Donc, il y a plein de choses à faire. Alors, des fois, tu vas récupérer un objet, ça s'appelle le portail de la Légion, où en fait, tu fais apparaître quelque chose, il y a un portail qui s'ouvre dans les airs quand tu l'utilises. Et non, mais ce sont des jouets, donc ce n'est rien de... C'est pas au niveau de l'histoire. Et comme ça, plein de choses, et plein de jouets, des mascottes, des sidéras que tu peux récupérer en explorant et en sortant un petit peu du chemin habituel.
C'est comme les trésors qu'on trouvait sur... le Timeless Isle et dans Warlords un petit peu partout, ça te donne de l'XP aussi, je suis sûr.
Pas tout. Il y en a, c'est juste pour le fun de récupérer un objet.
Ah oui, d'accord.
Donc il n'y a pas spécialement de l'expérience à la clé. Mais d'accord. C'est ça, voilà, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment agréable. Tu as ta suite de quêtes que tu peux effectuer, mais il ne faut pas faire que ça, il faut vraiment se balader dans les zones, parce qu'elles sont gigantesques. Et faut pas hésiter à prendre des petits chemins. Vous voyez, tu as la route qui part devant, et tu as un petit chemin de terre à droite. Prends ce chemin de terre, Patrick. C'est obligatoire. Tu prends ce chemin de terre, il y a certainement quelque chose au bout. C'est quelque chose que...
Je vais le mettre sur un t-shirt. Prends ce chemin de terre, Patrick. ça serait très bien. D'accord. Bah, écoute,
donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment agréable pour jouer.
Ouais, puis bon. Les musiques des zones, les deux thèmes d'Anduin qui est magnifique. Vraiment, au niveau des musiques, ils ont fait un travail incroyable hein, sur Légion. Sur beaucoup de points, en fait.
Ouais. Mais donc, au final, bon, on est forcément excité. Je pense que ça s'entend dans notre voix même. On est excité à l'idée de jouer à World of Warcraft et de jouer à Légion. Mais objectivement, objectivement, c'est compliqué. À notre avis, si on est fan de World of Warcraft, parce que si vous êtes pas fan, je sais pas pourquoi vous écoutez encore cette émission, mais pour les gens qui sont au moins intéressés par World of Warcraft, qui ont été intéressés à un moment, ça a l'air d'être quand même une extension qui est parmi les plus riches et parmi les plus intéressantes à faire, non?
En tout cas, c'est une des plus ambitieuses, vu la quantité de changements dans tous les sens.
Clairement. Donc ça, après, faut rester à voir s'ils continuent de mettre vraiment des patchs de contenu qui sont intéressants pour pouvoir faire continuer. Bon, c'est ce qu'ils ont prévu, ils nous l'ont promis, mais bon, ils nous ont déjà promis des choses par le passé et ils avaient un petit peu fail. Mais bon, vraiment, là, déjà de base, le contenu du jeu est plus important que n'importe quelle extension à la release en fait. Là, on a vraiment un contenu et des changements qui sont vraiment majeurs et qui donnent vraiment, vraiment envie en fait.
Ouais, voilà, tu as. Même pour celui qui joue à WoW, et il y en a beaucoup qui jouent tout seul à WoW, on va dire, eh bien, voilà, le mec, il a ses altes, s'il veut récupérer toutes ses armes prodigieuses, et il en a pour des dizaines et des dizaines d'heures pour tout récupérer.
Et donc, puis, à vrai dire, même... Oui, pardon.
Non, vas-y. Non.
À vrai dire, moi, je pense aussi aux gens qui ont arrêté de jouer entre les extensions presque à chaque fois, et puis qui reviennent pour une extension peut-être, pour une autre non. Celle-là, ça a l'air d'être une extension pour laquelle ça vaut la peine de revenir, de leveler jusqu'au niveau 110, et puis de faire un petit peu de niveau 110 si on veut, même si c'est pour un mois, deux mois, trois mois, et puis partir. Ça a l'air d'être, là encore, ça a l'air de valoir le coup, quoi. Ça a l'air d'être vraiment une expérience, comment dire, une expérience satisfaisante, intéressante, amusante, de faire le contenu de base de cette extension jusqu'au niveau max et puis peut-être un petit peu au niveau max, quoi.
Tout à fait, c'est rentable, on va dire.
Déjà, rien que pour l'histoire, rien que l'histoire, hein, c'est déjà une petite chose parmi tout ce qu'on a évoqué, mais rien que pour l'histoire. Allez-y, quoi. Enfin,
ah oui, Bastien, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'histoire est incroyable dans certaines zones. C'est terrible. Il arrive des choses incroyables.
Bah, là, si, je pense que rien que pour l'histoire, s'il ne se passe pas des trucs incroyables, je pense qu'on va vous envoyer des lettres d'insultes. Hein, parce que vous l'avez tellement.
Non, mais j'étais bouche bée devant mon écran à certains moments.
D'accord. Bon. Écoutez, on va donc avoir, comment dire, look forward to that. On va l'attendre avec impatience. Je pense qu'on va, si on continue plus à en parler, on va arriver dans des trucs de spoiler, donc on va s'arrêter. On va s'arrêter là. Je vais tout de même vous demander de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet avant de se quitter totalement, Julien.
Ben, moi, on peut me retrouver sur mon site web ou Twitter, Facebook, c'est sur le même nom. Donc, c'est JudgeHype, JudgeHype.
Très bien, merci beaucoup. Et Bastien, pour ta part, encore, on te retrouve Twitter et YouTube.
Voilà, moi, c'est Facebook, Twitter, Tankor le Warrior, THANKOR. Et sur YouTube, bien sûr, ma chaîne principale YouTube qui est Tankor le Warrior. Et sur Twitter, c'est Bastien Zayde, hein, Z-H-Y-D-E.
Alors, c'est
et,
ton nom de famille, Zayde, ou non, je crois pas.
Non, pas du tout, c'est un nom de code.
D'accord.
et puis sur Twitch aussi, je fais des streams de temps en temps sur la bêta de Légion, sur le pré-patch, et puis plus tard sur Légion en lui-même, hein, sur Miam TV. Sur Aluminium TV WoW et sur ma chaîne principale, Tankor le Warrior sur Twitch.
Mais tu es partout.
Je suis partout. Je suis même sur le réseau Blizzard. Je suis partout.
Magnifique. Ben, merci à tous les deux. J'espère que les auditeurs, ça vous aura plu ce petit résumé de toutes les fonctionnalités de l'extension de World of Warcraft. Comme vous l'aurez compris, moi, je suis vraiment excité pour l'extension. Je joue tous les jours, plusieurs heures par jour, je crois, depuis quelques semaines. Je crois que si vous pensiez que, en fait, quand je le rappelle, hein, pour être éthique encore une fois, j'ai travaillé chez Blizzard au département relations presse. En fait, j'ai quitté pour pouvoir, depuis la communauté, essayer de vous vendre encore plus les jeux Blizzard. C'est ça qui s'est passé.
Mais, c'est bizarre.
Oui, en fait. Non, mais c'est vraiment, enfin, je veux dire, je pense qu'il y a peu de doute que j'ai une affection énorme pour la société et pour les jeux qu'ils produisent. Comme je le disais, mon premier podcast, c'était sur World of Warcraft, donc il y a vraiment une place particulière dans mon cœur pour ce jeu. Donc voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de faire des émissions comme ça spéciales sur des jeux spécifiques, sur d'autres jeux à l'avenir. Il y a vraiment des trucs qui me passionnent, dont j'aimerais pouvoir parler plus spécifiquement dans des. Donc c'est le cadre parfait. Peut-être que j'en ferai une, deux, trois par an comme ça à partir de maintenant. Mais je pense que c'est vraiment un truc sympa à partager ensemble. Et puis, comme je le disais dans l'épisode précédent, on est à cheval. Je prends des petites vacances de 2 semaines début août et je vais pas faire de podcast du tout. Et ça tombe sur le moment où il y aurait le rendez-vous jeu. Et donc celui-ci n'est pas un remplacement de l'un de ces épisodes. Hein. C'est vraiment juste un épisode spécial parce que j'avais envie de parler de WoW. Mais je vais donner les clés à JK. Et il va essayer de nous faire un épisode dont il aura le contrôle lui-même. Donc, on va voir comment ça va se passer. Normalement, il arrivera début début août, à un moment peut-être entre première et deuxième semaine d'août, et on sera de retour après pour après la Gamescom. Donc on aura des petites news dont on vous parlera sans doute deuxième moitié de d'août, mais voilà. Donc ça, c'est pas, je le précise, hein, parce que je veux pas que ces épisodes spéciaux soient un remplacement d'un épisode principal. C'est juste que là, ça tombait comme ça dans l'emploi du temps. Vous aurez toujours vos épisodes classiques toutes les deux semaines du rendez-vous jeu, même si on a un épisode spécial en plus de ce type-là.
Donc, et puis voilà. Tu auras du boulot en rentrant de vacances avec la Gamescom.
Bah oui, oui, carrément. Il risque de se passer des trucs là-bas, donc oui, ça sera intéressant à suivre aussi. Bah écoutez, donc c'est tout pour l'émission. Je vous rappelle que je suis NotPatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission et d'autres sur frenchspin.fr. Il y a notamment le rendez-vous tech qui continue un petit peu sur le même mode. Vous verrez de quoi je veux parler. Et puis bah voilà, petite mention tout de même pour dire que au mois de septembre, c'est les 10 ans de podcasting de Patrick. Ma première émission, c'était Azeroth.fr il y a 10 ans. En 2006, rendez-vous compte, on parlait de nos âges tout à l'heure, ça n'aide pas. Et j'aimerais faire un truc. Ouais, faut oublier. Mais non, j'aimerais célébrer la chose quand même un petit peu. Donc j'aimerais faire une petite rencontre sur Paris en septembre. À un moment, je pense au 10 septembre. Maintenant, on verra. Il y aura les détails à venir. Mais si vous êtes intéressé par l'idée de se retrouver pour fêter 10 ans de podcasting et 10 ans de d'Azeroth.fr, parce que l'émission aura 10 ans à ce moment, j'aimerais qu'on essaye de se retrouver. Donc je dis peut-être le 10 septembre, c'est un samedi. Donc commencez à y penser dans un coin de votre tête. Je confirmerai la date et les détails au plus vite, j'espère. Donc voilà pour tout. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite d'excellentes vacances si vous êtes en vacances. Et puis on se retrouve sur les îles Brisées, évidemment, le 30 août. Merci à tous et à très vite. Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.